Psaume 42, verset 2. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » C'est bien, hein ? « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu ? Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Vous aviez certainement déjà lu ces deux psaumes. Et vous voyez, dans ces deux psaumes, vous voyez bien que malgré la soif qui peut être la nôtre, il peut y avoir en même temps de véritables luttes, de véritables difficultés. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est un homme, c'est les fils de Corée, ils expriment ce qui se passe dans la vie parfois. Parce qu'on peut avoir soif de Dieu, vraiment avoir soif de Dieu, et en même temps vivre des choses difficiles. Vous avez vu, vous l'avez lu, vous les relirez, vous les méditerez, et vous verrez de plus en plus que vous les méditerez, la souffrance intérieure, parce qu'il y a les luttes extérieures parfois, mais il y a les luttes intérieures, oui ou non ? Et ça, ce n'est pas caché, le Seigneur a voulu, entre autres, vous voyez, mais ces deux psaumes suffiraient à le certifier, que même quand on s'appelle fils de Corée, qu'on a été choisi par le roi David lui-même pour diriger la chorale dans la louange de Jérusalem, c'était pas n'importe qui ces gars. C'était des hommes spirituels. Et pourtant, vous voyez, les questions qu'ils posent expriment la souffrance qui peut se produire dans le cœur de certains chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce que cette histoire de balancer... Quand on est chrétien, on est en forme et tout va bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La preuve, parce que c'est des psaumes, non seulement c'est des psaumes que Dieu a voulu, mais c'est des psaumes inspirés puisqu'ils sont dans l'Écriture. Et ils expriment toutes ces luttes, tous ces combats. Et vous prenez un texte, moi je l'ai fait hier je l'ai fait naturellement, pas, j'allais dire pour m'amuser, non, je ne m'amuse pas. Mais les combats, les difficultés, les jours mauvais, la Bible parle des jours mauvais, il y a des jours pas faciles. Oui ou non ? Tous les jours sont bons chez vous ? Il y a des jours difficiles. La Bible parle des jours mauvais. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Mais vous avez soutenu un grand combat. » Il y a des combats pas faciles. Il y a des épreuves. Il y a des tentations. Oui ou non, il y a des tentations ? Il y a quelqu'un ici qui pourrait dire « Moi, depuis que je suis chrétien, c'est bizarre. J'ai tellement été protégé par Dieu, je ne sais pas ce que c'est la tentation. » Ben, écoutez, vous avez vraiment du bol. C'est pas possible. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. En toutes choses, sans commettre le péché. Les péchés, les conséquences du péché. Parce qu'il n'y a pas que le péché. Là, on attaque notre sujet, c'est vrai. Je déborde un peu. Mais quand même, les conséquences du péché peuvent avoir des incidences terribles dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut quand même veiller. Les souffrances, l'apôtre Pierre dit, mais armez-vous de la pensée de souffrir. Ça va jusque-là. Comme quoi la vie est faite de souffrances. Alors, il dédoute les abattements. Pourquoi t'as battu mon âme? C'est les pros de l'Église là, qui parlent. C'est les responsables. Pourquoi t'as battu? Pourquoi m'oublies-tu? On aurait pu dire, moi j'aurais dit à ce gars, écoute, ne te fais plus chanter. En école, ce qu'il dit, pourquoi m'oublies-tu? Et les gens me disent, où est ton Dieu? Il y a vraiment des problèmes qui sont en train de se manifester à l'intérieur de ces hommes ou de cet homme qui écrit. Alors on pourrait bien sûr continuer longtemps cette espèce de litanie. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que le Seigneur qui connaît ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement ce que l'homme doit faire. Il sait comment nous parler. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas parce qu'on prie à haute voix dans l'église que tout va bien. J'ai dû reprendre un frère il y a quelque temps qui me disait, les frères qui ne prient pas à haute voix, ils ne sont pas spirituels. C'est une bêtise, pas possible. Ça n'a rien à voir. Le niveau spirituel n'a rien à voir à la façon dont on est remarqué ou pas dans l'église. Ça n'a rien à voir, vous comprenez bien. Surtout que Dieu regarde au cœur. Vous le savez que Dieu regarde au cœur. Et que Dieu a énormément de mal à supporter la duplicité, l'hypocrisie. Vous vous rappelez quand il dit dans le prophète Ésaïe, « Mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et toute la crainte qu'il a de moi, on pourrait le mettre entre guillemets, n'est que précepte et tradition. Donc, Dieu regarde, on pourrait prendre les textes, c'est très intéressant d'ailleurs. Le temps ne permet pas de le faire, mais c'est très 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 intéressant de voir combien le Seigneur a dénoncé continuellement l'hypocrisie. Continuellement, à tel point qu'il a même traité des pasteurs d'hypocrites dans leur propre synagogue. Il faut le faire. Oui, je sais ce que ça peut coûter de traiter les gens d'hypocrites quand c'est nécessaire. Dieu aime que les choses soient vraies. Nous sommes sous le regard de Dieu, nous avons chanté, nous avons déjà bénéficié de la communion fraternelle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous avons loué à haute voix, nous allons louer individuellement, nous avons sondé nos cœurs en prenant le pain et le vin. Tout à l'heure, nous allons encore jouir de la communion fraternelle. C'est bien ou c'est pas bien? Tout ça, c'est excellent. C'est excellent. Mais voilà, il y a un moment où il faut quand même aller un peu plus loin et dire, bon, d'accord, j'ai soif de Dieu, c'est évident, je suis là, j'ai soif de Dieu, à moins que vous soyez le parfait hypocrite, que vous soyez là par routine. Et c'est clair que c'est bien que vous soyez là, parce que Dieu peut vous parler, mais maintenant, il faut que vous soyez capable de dire, mais pourquoi je suis venu dans la maison du Seigneur? Est-ce que je suis venu par habitude, en pensant que je suis avec Dieu? Ou est-ce que je suis venu parce que j'ai besoin d'une parole de Dieu, dans mon cœur? Si vous avez besoin d'une parole de Dieu, le Seigneur vous parlera. Ce n'est pas possible qu'il ne vous parle pas. Si vraiment vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'une parole dans mon cœur parce que je ne suis pas satisfait, oui, j'ai soif, mais en même temps, je suis de plus en plus abattu, je suis de plus en plus découragé. Ces deux psaumes expriment que ça peut dégénérer vite si on ne réagit pas. C'est ça que ça veut dire également. Ils expriment les combats. Mais ils expriment que le découragement peut venir et qu'il faut faire très attention parce que lorsqu'on laisse le découragement s'infiltrer et faire son œuvre, laissez-moi vous dire que le résultat risque d'être pire. Parce que les gens qui ont rétrogradé n'aimaient pas le Seigneur moins que nous, je ne le crois pas. Je pense que les gens qui ont rétrogradé, qu'on appelle les fils prodigues, ce sont des gens qui n'ont pas veillé et qui n'ont pas pris attention à ces affaires-là, intérieures, l'abattement, le découragement, les propos difficiles des gens avec qui on travaille. Mais moi, ce n'est pas le cas, heureusement. Heureusement. Mais je sais que ça peut arriver. Ça m'est arrivé déjà. D'être en bis-bis avec des pasteurs, c'est de la folie. Ouais, ça peut arriver. Tout peut arriver. Alors, quelle est mon attitude? Quelle est l'attitude? Qu'est-ce que Dieu attend que je fasse? Est-ce que je continue à me lamenter tout en ayant soif? Et pourquoi t'as battu? Parce qu'il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont verrouillés depuis 5 ans, depuis 10 ans. J'ai dû reprendre une personne jeudi, ça fait 21 ans, qu'elle est bloquée, vous savez, vous imaginez, sur la route, une voiture toujours au même endroit depuis 21 ans. Bon, les ponts et chaussées auraient fait leur boulot, mais imaginez une voiture qui serait bloquée au même endroit depuis 21 ans. Vous diriez, il y a un problème. Eh bien, il y a des chrétiens, ils sont exactement pareils, parce qu'ils n'ont pas été sérieux. Ils n'ont pas été sérieux. Ils sont peut-être sincères, ils sont peut-être gentils, ils sont peut-être sympas, mais ils n'ont pas été sérieux avec Dieu. Honnête. Et il y a un moment donné où ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il faut bouder, et à un moment donné, il faut réagir. Et ces deux psaumes, je vous assure, vous les méditerez, vous comprendrez que le découragement, c'est terrible le découragement. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations. Il n'a pas dit, je vous épargnerai les tribulations. Est-ce que Jésus aurait pu nous en épargner? Ben oui. Lorsque Pierre se gargarisait d'être meilleur que les autres en disant, mais moi, les autres, c'est clair, les autres, ils te livreront, ils t'abandonneront, mais moi, c'est pas possible. Et Jésus lui a dit, mais tu feras pareil. Et le diable va te réclamer et te cribler. Mais je prierai pour toi pour que ta foi ne défaille point. Il aurait pu dire, tu sais, le diable, il veut te cribler, mais moi, le Fils de Dieu, j'empêcherai. Il pourrait empêcher. Le Seigneur pourrait empêcher plein d'épreuves. Mais Pierre avait besoin de cette épreuve justement pour revenir à Dieu. Et comment sortir du découragement? Parce qu'on a tous été découragés. Oui ou non? Tous. Le découragement, mais le problème, c'est qu'il faut le régler de suite. Et là, on voit dans ces deux psaumes quand même, la preuve, c'est que c'est inspiré, c'est quand même des psaumes inspirés, puisqu'ils sont dans le canon des Écritures. Dieu a vraiment voulu que ces choses soient vécues pour que nous puissions nous aussi dire, bon, d'accord, j'ai des tribulations, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et que personne ne s'imagine que c'est avec sa personnalité, avec ses propres forces, avec son charisme supérieur aux autres. Moi, on m'a tout le temps dit que j'étais positif. Il y a des gens qui parlent comme ça. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas avec ça qu'on va gagner la victoire. On gagne dans le domaine du spirituel avec des armes spirituelles. Et pour cela, il faut peut-être prendre vraiment au sérieux les choses qu'on entend. Tout à l'heure, vous avez entendu une lecture pour la Sainte-Seine. Vous vous rappelez les deux premiers mots qui ont été donnés à la lecture de la Sainte-Seine? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire les deux premiers mots qui ont été dits à la lecture de la Sainte-Seine? Je veux savoir si vous écoutez bien. Rendez grâce. Non? Rendez grâce. Tiens donc, est-ce que Dieu nous demande de rendre grâce? Vous le faites? Est-ce que vous rendez grâce? Oui, monsieur Hugo, à table, tous les jours, quand je prends mon café, quand je prends mon petit repas midi, quand je prends mon repas le soir, je ne manque jamais de rendre grâce. C'est ça rendre grâce? Est-ce que c'est ça rendre grâce? Est-ce que c'est ça d'après vous? C'est vrai qu'il est demandé, quand tu mangeras, garde-toi d'oublier ton Dieu. Moi, j'aime le faire. Mais je peux vous dire, je le dis parce que c'est la vérité, même si on le fait tout le temps avant le repas, pendant le repas, je le fais 5 fois, 10 fois, tout en mangeant. Je dis, mon Dieu, merci Seigneur, merci. C'est vrai qu'elle cuisine bien, mais même. Merci Seigneur pour le repas. On peut le dire plusieurs fois dans le repas en disant, Seigneur, merci pour le pain. Est-ce que vous le faites plusieurs fois dans le repas? Est-ce que ça vous arrive d'y penser plusieurs fois dans le repas? Bien, vous êtes heureux parce que c'est la preuve que votre reconnaissance est vraie. Alors, on va prendre notre texte. Comment sortir de cet abattement? Comment sortir de ce trouble? Comment sortir de ce découragement avec un D majuscule? Parce que pourquoi m'oublies-tu? Quand on commence à penser que Dieu nous oublie, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bon signe. Est-ce que Dieu peut oublier quelqu'un? Est-ce que c'est écrit que même si notre mère nous oubliait, ou oubliait un enfant qu'elle allait, ce qui hélas arrive, Dieu n'oublierait pas un de ses enfants, nous sommes gravés dans ses mains. Alors dans l'épître aux Romains, on va avoir affaire à quelqu'un qui attend depuis 25 ans, enfin pas depuis 25 ans, mais ça fait 25 ans que Dieu lui a parlé, ça fait plus de 25 ans puisqu'il a 100 ans. Il a 99 ans quand
quand il est dans cette affaire.
Romains chapitre 4, verset 18.
Mes frères et sœurs, la vie est faite de lutte. Et beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts lorsque Jésus reviendra parce qu'ils n'auront pas veillé comme nous sommes en train de le partager ce matin. Oui, la vie est faite de combats. Oui, la vie est faite d'adversité. Oui, la vie est faite d'épreuves. Mais nous avons un Dieu qui est vivant. Il est vivant. Lisez avec moi dans Romains au chapitre 4, verset 18, le témoignage d'Abraham, qui est notre modèle. La Bible dit que ce sont des modèles qu'il faut imiter. C'est écrit ça, qu'il faut l'imiter, Abraham. C'est écrit où? Je sais plus. Hébreux 6. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle n'en avait que 89. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, à apprendre ce texte par cœur, à le méditer, car il y a de grandes bénédictions pour ceux qui méditent la parole de Dieu. Heureux l'homme qui médite. Il n'est pas dit heureux l'homme qui va à l'église. Les gens, ils vont à l'église, ils ont un témoignage déplorable. Déplorables. Ils font partie de ce que Jésus catalogue de scandales. Vous savez, la Bible dit, malheur aux hommes par qui les scandales arrivent. Vous n'en avez jamais vu, hélas, des gens qui, par leur témoignage, scandalisaient l'Église? Est-ce qu'il n'y en a pas? Mais c'est un truc de fou. Hein. Alors, c'est vrai que Jésus a dit un jour, parce qu'il s'était inquiet, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Donc, c'est clair, il ne peut pas ne pas en y avoir. Pourquoi? Parce que Dieu nous laisse libres. Et autant je peux m'appliquer à donner un bon témoignage, et bien autant je peux m'appliquer à avoir un témoignage double, c'est-à-dire je suis spirituel quand je suis à l'église, ou quand je fais mon travail, ou devant les chrétiens, et puis après à la maison, et bien je suis pire qu'un impie, voilà. Et la Bible est catégorique. Par exemple, celui qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Et il a renié la foi. Ça ne peut pas être plus clair. Ça vous donne une idée? Comment ça commence? Je suis chrétien, j'ai une famille, et bien je dois prendre soin de ma famille. Ce n'est pas toujours facile, peut-être, parce que vos enfants sont des adolescents. Je le sais, je sais ce que c'est. Mais je crois que Dieu peut nous donner la grâce de savoir comment il faut faire. Dieu a toujours une parole. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas faire les choses... il ne faut pas inventer les choses. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Petit bonheur, la chance, tiens, je crois qu'il faut faire comme ça. Quand Élie... Et je voudrais donner ces deux exemples, l'exemple d'Élie et l'exemple d'Abraham. Quand Élie a vu le pataquès qu'il y avait en Israël et que tout le monde marchait à cloche-pied, Dieu lui a donné une parole. Et Dieu, il a fait les choses, il a dit, je fais les choses d'après la parole. Mes frères et sœurs, si nous voulons que Dieu nous bénisse, il faut faire les choses d'après la parole. Vous voyez, je viens de parler de ce verset de Timothée, quand il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, mais il faut avoir soin des siens. Si Dieu vous a donné un conjoint, ce n'est pas une bénédiction d'avoir une épouse? Est-ce que c'est une bénédiction d'avoir une femme? Les frères, oh, je vais reposer la question, je sais que je m'exprime mal. Mes frères, mes sœurs, est-ce que c'est une bénédiction d'avoir un conjoint? Est-ce que la sono pourrait être mieux réglée, s'il vous plaît? Mes frères et sœurs, est-ce que c'est une bénédiction d'avoir un conjoint? Est-ce que c'est une bénédiction? Mais oui! Alors, la preuve que le problème, il est compliqué, c'est que je suis trop bien placé. Il y a des frères, alors quand ils sont célibataires, ils sont malheureux parce qu'ils sont célibataires. Une fois qu'ils sont mariés, ils sont malheureux parce qu'ils sont mariés. Ne riez pas, hein, parce que c'est la vérité. Ils sont mariés, malheureux parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Après, ils sont malheureux parce qu'ils ont des gosses. Hein. Mes frères et sœurs, s'il y a un problème... Et je crois qu'il y a des enseignements bibliques qu'il nous faudrait commencer à prendre au sérieux, car le début de la maladie, nous l'avons lu dans les deux psaumes, il ne peut se guérir que s'il y a véritablement une attitude de cœur sérieuse, Abraham ne pouvait rien faire, rien faire. Élie, lui, il avait besoin d'une parole de Dieu. D'ailleurs, il va le dire. Ce que je l'ai fait d'après la parole de Dieu. Il improvisait rien. Et je crois que beaucoup de gens improvisent tout simplement parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ça fait peur. Moi, dans mes entretiens, aujourd'hui, je peux vous dire que ça me fait peur. Il y a des chrétiens, c'est sûr, ils ne lisent pas la Bible. Et le problème, pire, c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Cette semaine, écoutez bien, je vous donne ça parce que c'est. Il faut que je vous le dise. Je discutais avec une personne qui est chrétienne, une chrétienne. Et je m'en suis douté. Et je lui dis dans l'entretien, mais vous priez la Vierge Marie ? Oui, je prie la Vierge Marie. Je suppose que vous priez les morts également ? Ah oui, j'ai prié. J'ai dit, vous n'avez pas lu dans la parole de Dieu ? Ah bon, je ne lis pas la Bible. Si vous êtes chrétienne ? Eh bien, oui. Quelqu'un qui est chrétien selon le sens biblique, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme étant le Seigneur du ciel et de la terre. Il sait que le petit Jésus n'existe pas. Il sait que le petit Jésus, c'est le Seigneur du ciel et de la terre qui s'est dépouillé de la gloire et qui est venu mourir sur le bois de la croix pour ses péchés. Et quand il a cru ça, le Saint-Esprit est venu dans son esprit. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et quand quelqu'un prie les morts, quand quelqu'un prie la Vierge, moi j'aime la Vierge, comme j'aime Moïse, et c'est une femme extraordinaire la Vierge. Ne me faites pas dire ce qu'on dit, oui les pentecôtistes ils ne croient pas à la Vierge Marie. On n'adore pas la Vierge Marie, on n'adore que Jésus-Christ, et que Dieu, que le Saint-Esprit si vous voulez, puisque le Saint-Esprit est Dieu. Là aussi c'est une question qui tourne en boucle depuis des décennies dans les mouvements pentecôtistes, charismatiques. Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Ben, le Saint-Esprit c'est Dieu, sur la terre. Alors, on ne va pas parler de ça. Mais mes frères et sœurs, quand quelqu'un, il faut le dire, mais il faut que vous le sachiez, si vous priez les morts, c'est que vous n'avez pas l'esprit. Vous pouvez me dire ce que vous voulez à la sortie, ça ne servira à rien. La Bible parle des gens qui n'ont pas l'esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, je peux vous dire que s'il se met à prier les morts, il va être vite repris dans son cœur. Oui ou non ? Et je vous dis ça parce qu'on en est arrivé à un stade où dans le royaume de Dieu, il y a tout et n'importe quoi parce que les gens n'ont pas pris le temps de lire la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Et comme disait M. Blanc tout à l'heure dans la Sainte-Seine, il ne faut pas la lire pour la lire. Des fois, on me pose la question, combien de chapitres faut-il lire tous les jours la Bible ? On me pose la question. Écoutez, il vaut mieux peut-être lire qu'un verset. Mais le lire de tout son cœur et le méditer. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment lire un verset. Tiens, ce texte-là de Romains chapitre 4, verset 18 à verset 21. Peut-être vous ne lirez que ça toute la semaine, mais vous vous imprégnerez du témoignage de cet homme et vous direz, mais qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas faiblir? Puisque le psaume 42 et le psaume 43 indiquent les dangers de quelqu'un qui se laisse décourager. Qu'est-ce qu'il a fait, le brave Abraham? Puisqu'il ne pouvait rien faire. C'est ça le truc, c'est que des fois on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Il avait 99 ans, sa femme n'avait que 89 ans, ils n'avaient pas d'enfants. Dieu leur avait fait une promesse, ils se sont loupés comme il faut. Il s'est loupé deux ou trois fois Abraham, il a payé cher. Mais enfin bon, Dieu l'a pardonné. Et là il arrive à 100 ans, ça fait que 25 ans que Dieu lui a fait une promesse. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Il y a des gens, depuis longtemps, ils ont rétrogradé, croyez-moi. Depuis longtemps. Ils n'attendent pas 3 ans, 5 ans, ils attendent 15 jours. Eh bien, si c'est ça, j'en veux pas. Eh bien, ouais. Eh bien, Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouvera toujours. Et c'est là qu'on voit si on l'aime parce qu'il est Dieu ou si on l'aime par intérêt. Il y a la grâce. Faut pas non plus être hypocrite. Béni soit Dieu pour toutes les conséquences. La prophétie qui a été donnée ce matin, la deuxième prophétie, indiquait de la grâce de sa présence. Il y a plein de grâces. Que Dieu accorde, plein de bénédictions, vous d'accord, avec un petit B, que Dieu accorde à ses enfants. Mais il y a quand même la grâce, avec un G majuscule, de sa présence, avec un P majuscule. Vous me suivez? Il n'y a pas photo. entre les deux sortes de grâces et de bénédictions. Il y a des bénédictions de tous les jours, je parlais tout à l'heure de chaque repas. C'est une grâce d'avoir à manger. C'est une grâce. Aujourd'hui, combien de gens vont mourir, combien de gens vont avoir soif, etc. Bon, je ne vais pas le répéter. Mais tout à l'heure, vous allez peut-être manger. Dans demi-heure, on va partir. Peut-être que certains même vont se payer le resto. Ben, c'est bien, c'est bien. Mais mes frères et sœurs, il doit y avoir dans le cœur de chaque chrétien un sérieux par rapport aux choses de Dieu. Et quand moi je vois un chrétien qui me dit « Ah mais on n'adore pas, c'est pas de l'adoration pour Marie, c'est pas de la mariolatrie, c'est de la mariologie. » Ah d'accord, moi j'ai besoin de... Je l'ai entendu ça. Ah d'accord, ouais, c'est... Vous savez, quand on veut justifier sa désobéissance, si je vous disais tout ce que je vous ai entendu, vous, franchement, vous me diriez, écoute Gérard, prends 15 jours. Il y a des moments difficiles. Vous avez lu avec moi le psaume 42, le psaume 43. Malgré la soif, il peut y avoir des moments difficiles. Mais nous avons un grand Dieu, tout puissant. Et il ne faut pas que ça soit juste exprimé du bout des lèvres le dimanche matin. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, c'était très bien les chants, etc., etc. Alors mon cœur redit le jour, la nuit. Merci. Alors mon cœur redit le jour, la nuit. Seigneur, que tu es bon. Si on était honnête, beaucoup parmi nous devraient réécrire le cantique et dire de tout mon cœur, pas le jour, la nuit. On va écrire le dimanche matin de 9h à 11h. Vous le remettez, Ina? Mais vous comprenez ce que je veux dire? Si certains étaient vraiment honnêtes, ils chanteraient alors mon cœur redit le jour, la nuit. C'est plus haut, non? Ah non, non. Alors mon cœur, où c'est ça un cri? Je vous le dis parce que c'est pour qu'on soit honnête. Alors, mon cœur heureux s'est cru à chaque instant. Au Dieu d'amour que tu es grand, c'est écrit, on l'a chanté. Ah, la nuit, le jour, montez. Vous voyez là, si on était honnête, certains devraient dire, alors mon cœur, ne bougez pas trop parce que moi j'y vois plus rien. Où c'est écrit? Alors mon cœur redit le jour, la nuit. Ah, Ina, je suis perdu là. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, où c'est que c'est? C'est le dernier. Alors mon cœur redit la nuit. Certains devraient chanter. Et soyez honnêtes. C'est vrai, je devrais chanter. Alors mon cœur redit le dimanche matin. Bon, ça va être difficile pour la rime, hein, mais ça fait rien. Si quelqu'un est honnête, quelqu'un pourrait dire oui, c'est vrai, c'est pour moi. Ce qu'il est en train de faire là, ça coupe un peu le culte. Mais c'est quand même la vérité. Je devrais chanter que le matin, le dimanche matin de 9h à 11h. Alors mon cœur chante de 9h à 11h Dieu d'amour. Tout le reste, c'est pas vrai. Parce que c'est demain matin qu'il faudra le chanter, ce cantique. Et Seigneur, c'est vrai, je vais aller au travail. Mon patron, il n'est pas facile. Eh bien oui. Mais peut-être qu'il va falloir lui demander pardon. Est-ce que ça peut arriver de devoir demander pardon à un patron parce que vous l'avez jugé et critiqué? Eh bien oui. C'est ça l'évangile. Élie, il a dit, il faut faire les choses d'après la parole. Vous marchez à cloche-pied, il faut que quelque chose se passe. Parce que la fin, c'est que le feu de Dieu est descendu. Mais le feu est descendu parce que la parole de Dieu a dit quelque chose. Et la parole de Dieu a dit, il faut rétablir l'autel. Il y a peut-être plein de choses à rétablir dans ma vie. Tiens, mais c'est vrai que je n'ai pas soin de ma femme. Eh bien, je vais peut-être demander à Dieu qu'il me donne de l'amour pour ma femme, qu'il me donne de l'amour pour mes enfants, qu'il me donne de l'amour pour le gouvernement. Moi, je prie, je vous assure. Je prie pour avoir de l'amour pour les membres du gouvernement. Parce qu'ils méritent. Et je dis, Seigneur, c'est vrai que bon, ça tient debout ce que je dis. Parce que la Bible dit, tu ne peux supporter le méchant, donc je peux me garer derrière cette affaire. Mais je pense qu'on peut demander de l'amour pour ceux qui nous gouvernent. Oui ou non? Est-ce que c'est facile d'aimer les autorités du pays? Moi, je trouve que ce n'est pas facile. À cause de leur choix. Mais Seigneur, donne-nous de l'amour pour les autorités du pays. Parce que je pense qu'on a tout à gagner à prier pour les autorités du pays. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir une parole de Dieu. Quand je lis la Bible, je lis trois chapitres, monsieur Hugo, si je lis trois chapitres par jour, moi je ne dis plus rien, je dis écoutez, faites ce que vous voulez. Ça ne sert à rien de lire trois chapitres par jour si on ne lit pas avec son cœur. Mais quelle est la parole que Dieu va me donner pour me sortir de mon abattement, de mon découragement? Parce que c'est le début de la, c'est le début de la rétrogradation. J'aime pas ce mot dans le domaine du spirituel. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le début de la fin. Lorsqu'on commence à être découragé, il faut absolument dire, mais Seigneur, tu as une parole de Dieu pour moi. Et Abraham, il a cherché Dieu. Il a dit, non, je refuse de faiblir. Vous avez vu le verset 19? Sans faiblir dans la foi. Ça exprime un homme qui dit, non, je refuse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est clair. C'est des textes qui, ça vaut la peine de les méditer. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Je ne sais pas, peut-être que... Bon, mais vous n'allez pas me dire, mais ma femme, elle a 80 ans, tu crois qu'on peut avoir un gosse? Écoutez, c'est spirituel. Peut-être que c'est, le temps est passé. Vous avez compris? Parce que non, mais j'entends de tout. Hein. Alors écoutez, vous avez compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire que même si une situation est morte, paraît morte. Si vous êtes dans une église, là je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent sur internet, si vous êtes dans une église qui vous paraît morte, si vous avez un pasteur qui vous paraît mort, c'est possible. Si vous êtes dans une famille où tous les membres de votre famille vous paraissent morts, ça peut arriver. Vous devez dire, je ne vais pas considérer ces choses, je vais regarder à ce Dieu qui a le pouvoir sur les morts. Ce matin je lisais l'évangile, quand il est dit, c'est quand même formidable, quand il est dit, le jour vient où les morts entendront ma voix. Vous, c'est pas merveilleux ça? Vous avez dit, mais mort, il n'entend rien. À l'enlèvement, on en reparlera. Mais demandez à Lazare, est-ce qu'il était mort Lazare? Il était mort? Il était bien mort? Il était mort puisque la Bible dit qu'il sentait déjà. Donc ça veut tout dire. Et pourtant, quand Jésus est arrivé, et qu'elles ont entendu la parole qu'elles devaient entendre, ôter la pierre, c'était la parole qu'elles avaient besoin d'entendre pour que le miracle ait lieu. Parce que laissez-moi vous dire que si Jésus a fait sortir Lazare de son tombeau, il pouvait dire à la pierre, est-ce qu'il pouvait parler à la pierre et dire à la pierre, déplace-toi de 2 mètres. Est-ce que Jésus pouvait déplacer la pierre? Vous êtes sûr? Il a fait un peu plus. Et pourtant, il fait intervenir Marthe et Marie. Je ne sais pas si elles l'ont fait, si elles l'ont fait faire, c'est pas grave. Mais c'est ce que je voudrais que nous comprenions, c'est qu'on ne sortira pas du psaume 42 et du psaume 43 si on n'a pas cette honnêteté de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que tu me demandes à moi, là, aujourd'hui, 15 février 2015, ou demain, ou ce mois de février, il y a quelque chose que Dieu va vous demander. C'est pas possible. Si vous êtes là en disant, bon, c'est bien, j'attends une prédication qui me fasse du bien pour aller jusqu'à dimanche prochain. C'est pas ça. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'à un moment donné, où il y a une parole de Dieu qui va vous interpeller. Ce matin, quand je lisais, voyez ce texte, les morts entendront la voix. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans le visible, dans l'invisible. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Un frère, ce matin, parlait des anges qui tournent. Ils tournent, enfin, ils sont à côté, ils campent autour de vous. Vous le croyez, ça, que les anges vous gardent? Vous en êtes sûr? Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Jésus a parlé à Lazare, il était mort. Il était mort. Et il est sorti. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et je crois qu'il y a des chrétiens qui sont morts. Et qu'ils doivent réapprendre à entendre la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire, il faut être sérieux avec la Bible. Moi, je vous dis, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand une chrétienne invoque les morts, quoique je comprends. Vous savez, dernièrement, on était dans une église avec ma femme. On était dans une église et il y avait eu un décès. Il a fallu que je reprenne le pasteur. En plus, j'étais là pour me reposer. À la fin, j'ai dû aller reprendre le pasteur. Il y avait une dame qui avait témoigné. Je crois qu'elle avait perdu son fils, un truc comme ça. Ouais, c'était douloureux. Le pasteur des ADD de France, qui est monté à ma place. Et qui a dit, voilà, vous savez, sœur, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, quand le sentimental prend le dessus sur le spirituel, vous savez, votre fils, il vous voit du ciel, il vous regarde. Il ne faut pas s'étonner. Alors j'ai dit, mais où t'as vu ça? Où t'as vu que les morts nous regardent? Heureusement qu'ils ne nous voient pas. Parce que je pense que certains, ils ne seraient pas au ciel. Vous voyez, mes frères et sœurs, parce que les gens ne lisaient pas la parole de Dieu. Et j'ai dit à ce pasteur, après, il a demandé pardon, parce que je sais qu'il y a une personne qu'on est là qui... Et il a demandé pardon à l'église le dimanche d'après. Mais, voyez mes frères et sœurs, c'est pour ça que ce qui nous gardera, c'est pas un pasteur, c'est de garder la parole. parce que tu as gardé ma parole, je te garderai hors de l'heure de la tentation. Et beaucoup de chrétiens vont se retrouver scotchés à la terre quand il y aura l'enlèvement de l'église, parce qu'ils n'auront pas gardé la parole de Dieu. Et Abraham, j'ai pensé à Abraham, parce que ça tenait debout, c'est facile à comprendre. Il n'a pas regardé sa femme, il n'a pas regardé son corps, il n'a pas regardé, ça, c'est l'image du chrétien, non, je ne veux pas regarder à l'église, même si elle est en vrac, je ne veux pas regarder même à mon pasteur s'il ne va pas bien, je veux regarder au Dieu qui est le maître du ciel et de la terre. Et il l'a fait, et comme il ne pouvait rien faire, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? Il a dit, il ne douta pas, il a choisi de ne pas douter. C'est sûr que si vous commencez à douter dès que vous ouvrez la Bible, cette semaine, il y a une chrétienne qui m'a appelé, elle a eu un moment de doute, vraiment un moment de doute. Elle a lu dans le livre de l'Exode, quand vous savez, quand Dieu appelle Moïse, enfin, à bout de 40 ans chez le beau-père, 40 ans de difficile, etc. Et puis quand enfin il se met à obéir, sur le chemin où il va, quand il part en Égypte, qu'est-ce qu'il est dit? Que Dieu a voulu faire mourir Moïse. Non mais tu te dis, mais c'est quoi cette affaire? Ça a mis 40 ans pour former le gars, et au bout de 40 ans, il fait quelques pas dans le désert, et Dieu veut le faire mourir. Vous avez lu cette histoire, hein? Et la personne était vraiment troublée. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été sur Internet. Elle a trouvé des sites qui contredisent la parole de Dieu, etc., etc. Et ça l'a vraiment troublée, et elle a fini par m'appeler. Et je lui ai expliqué que lorsque on entre de plus en plus dans le plan de Dieu, lorsque c'est comme une cible, si vous voulez, plus vous entrez dans le centre de la cible, plus Dieu est exigeant avec l'obéissance. Et là, c'est un problème de circoncision. Il avait un problème avec sa femme, elle ne voulait pas circoncire son fils parce qu'elle était madianite, etc. Et quand elle a vu que Moïse était en train de mourir, elle a vite compris, elle a circoncis le fils et elle a dû repartir chez son père parce qu'il fallait que son fils guérisse, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? Vous croyez que Dieu sait ce qu'il fait? Oui, si Dieu dit certaines choses, c'est pour que nous comprenions l'exigence de l'obéissance. Mais à des moments, il n'y a rien à faire. La seule chose que l'on peut faire, Abraham, il ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a décidé de ne pas douter et il nous a dit qu'il a été fortifié. Comment il a été fortifié? Comment il a été fortifié? Vous l'avez lu avec moi? Alors, sans regarder la Bible, sans pomper, comme on dit à l'école, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Non. Romains chapitre 4, verset 20. Il fut fortifié par la foi. Qu'est-ce qu'il fait? Donnant gloire à Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Et je vous pose la question, je nous la pose. Est-ce que nous sommes dans cette catégorie de frères et sœurs qui, malgré le dessèchement, la mort, l'incapacité d'enfanter, etc., ce que vous voudrez, est-ce que nous sommes capables de rendre gloire à Dieu? Je ne parle pas le dimanche matin de 9 à 11. Je parle tout à l'heure, demain matin, au travail, dans l'épreuve, Seigneur, je te donne gloire. Est-ce que vous donnez gloire à Dieu le dimanche? Est-ce que vous donnez gloire à Dieu le jour? Est-ce que vous donnez gloire à Dieu la nuit? Est-ce que vous donnez gloire à Dieu au travail quand vous n'êtes qu'avec des inconvertis? Il a donné gloire à Dieu. On s'étonne. Mais je peux vous dire qu'on comprend pourquoi Dieu a choisi certains hommes. Regardez Élie. Élie, il dit, j'ai fait les choses d'après ta parole. Il fallait une parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes découragés. Je ne sais pas si vous êtes abattus. Je sais que c'est un danger terrible que de commencer à être découragé. J'ai trop vu depuis que je suis pasteur des gens qui n'ont pas réglé cette affaire et qui, le découragement, on peut dire, c'est pas trop grave, c'est pas méchant, t'es découragé. Allez, prends courage, une petite tape sur l'épaule. Prends courage, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. C'est beaucoup plus grave que ça. Et le diable, laissez-moi vous dire qu'il s'y entend pour nous décourager et pour que ce découragement se transforme en un abattement profond et pour que ça se transforme en rétrogradation. Quand on commence à dire, ouais, où est ton Dieu? Les gens me disent, mais où est ton Dieu? Eh bien, peut-être que Dieu n'agit pas dans ma vie comme j'aimerais qu'il le fasse, mais je sais que tout ce qui est écrit dans le Saint-Livre, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors moi, je ne vais pas faiblir, je vais le glorifier. Oui, Seigneur, je vais te glorifier. Et je sais ce que je dis. Je sais ce que je vous enseigne. Je ne l'ai pas appris dans un bouquin. Je l'ai appris en pleurant souvent, bien souvent. Parce que vous allez dire, ouais, mais toi, tu l'as facile. Mais toi, moi, mes frères et sœurs, je ne suis qu'un chrétien comme vous. Qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce que j'ai de plus que vous? Si, la responsabilité de prêcher. Mais je suis qu'un chrétien. Et les frères le savent, puisqu'ils me connaissent. Moi, je peux vous dire que dans l'Église, moi, je viens en tant que frère. Quand demain, je vais assumer le conseil d'administration, mais je peux vous dire que je ne vais pas en tant que président ou en tant que pasteur. Les frères peuvent le dire. Moi, j'y vais en tant que chrétien. Je suis un chrétien et ce que je vous prêche, je ne l'ai pas appris dans un institut de théologie, je n'en ai pas fait. Je l'ai appris en le vivant. Et je sais que quand on glorifie Dieu, ça lui plaît. Il y a des choses qui plaisent à Dieu. Quand on dit « Seigneur, je te glorifie, c'est ce que je traverse, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Mais Seigneur, ce n'est pas grave, je te glorifie, je te glorifie, je te rends gloire, Seigneur. Tu peux me sortir de ce filet dans lequel je suis tombé. » Vous croyez que Dieu peut sortir quelqu'un d'un filet? Vous croyez qu'il s'appelle vraiment le Tout-Puissant ou il s'est appelé le Tout-Puissant parce qu'il avait un complexe d'infériorité, notre Dieu? Vous croyez vraiment que Dieu est Tout-Puissant? Que s'il dit qu'un jour il parlera aux morts, il peut parler aux morts. Et aux morts en Christ, il ne va pas se tromper. Et tous les morts en Christ vont ressusciter. Vous croyez que c'est vrai ça? Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit peu de puissance dans cette affaire? Non? Vous ne trouvez pas que c'est un peu puissant ce truc-là? Non? Il y a combien de morts sur la terre? Combien de gens sont enfouis dans les mers, dans les cimetières, dans les fosses communes? Oui, il est tout puissant. Abraham l'avait compris. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que vous compreniez qu'il y a, si vous n'avez pas une parole, si vous n'avez pas une parole, glorifiez-le. Si vous avez une parole, faites ce qu'il vous demande. Élie a eu une parole, il a dit, rétablissez l'autel. Peut-être que c'est ça qu'il faut que vous fassiez ou que je fasse. Parce qu'il y a des choses qui doivent être rétablies. Cette semaine, je discutais avec un frère qui me disait qu'il n'arrêtait pas de vomir, qu'il était toujours malade, toujours malade, toujours malade, toujours malade. Et le jour où il a été demandé pardon, je crois, à un collègue, eh bien, il a été guéri. Vous savez, il ne faut pas s'amuser. Je ne dis pas que toutes les maladies sont liées à l'amertume, heureusement, mais il y a des maladies qui sont liées à des problèmes spirituels. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si vous avez une parole, si vous ne l'avez pas, ben peut-être cherchez-la. Moi, j'ai passé plusieurs heures à chercher cette prédication. À chercher pas la prédication, pardon. À chercher Dieu pour avoir la pensée du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut croire que si demain, il lit pas la Bible pour lire la Bible, je vais lire 3 chapitres parce que j'ai vu dans un bouquin que j'ai acheté, dans une librairie chrétienne, qu'il fallait lire 3 chapitres par jour. Si tu lis 3 chapitres par jour, tu liras la Bible dans une année. Ah ouais, dans une année, oui, eh oui. C'est bien. Moi, je le lis, je le fais, ça. Mais je fais la différence entre lire la Bible et lire avec mon cœur. Un verset. Que je tiens à ce qu'un verset me touche. Et une parole viendra. Et si la parole ne vient pas, eh bien, je vais glorifier. Alors, Ina, vous allez changer le cantique, vous allez faire une parenthèse. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous ne voulez pas faire une expérience cette semaine? Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire une expérience cette semaine? Vous croyez que vous pouvez faire une expérience avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Pas une expérience pour faire une expérience qui corresponde à la volonté de Dieu. Vous me suivez? Est-ce que vous croyez que vous pouvez la faire? Ah oui? Moi, je peux vous dire que vous pouvez faire une expérience. Seigneur, il y a des choses qui correspondent aux œuvres que tu as préparées à l'avance. Alors, on va fermer les yeux. J'aimerais vraiment que vous puissiez dire, mais c'est vrai, je suis un chrétien de nom. De nom. J'ai même pas une parole de Dieu. Et je suis là, je suis tout le temps dans le jugement, dans la critique. Oui, j'en suis malade. Les chrétiens sont toujours dans la critique. Mais sortez-en, ce matin. Surmontez le mal, parle bien. Si vous avez une parole, tenez-en compte. Si vous n'avez pas de parole, eh bien, glorifiez-le. Glorifiez-le. Comme on l'a lu tout à l'heure à la Sainte-Seine, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. On va prier simplement. Dieu savait qui viendrait ici. Dieu sait ceux qui écouteront cette prédication par le biais d'Internet. Et je sais que plusieurs parmi vous qui écoutez par Internet, je sais combien c'est difficile. Je le sais. Je sais combien de frères et de sœurs sont dans des églises en difficulté. Mais Dieu a une parole pour vous. Et si vous ne l'avez pas encore reçue, eh bien, méditez ce texte de Romains 4, versets 17 à 21. et glorifiez-le. Et vous verrez. Notre Père, oui, tu peux parler aux morts. Et tu leur parleras un jour. Et tous les chrétiens, sortiront de leur tombe pour te rejoindre. Merci Seigneur pour ta toute puissance. Et merci de ce que si nous sommes vivants encore, nous les accompagnerons pour les noces de l'agneau. Merci pour ta parole. Tu vois ceux qui doutent, ceux qui sont en train de vivre le psaume 42 ou 43, délivre-les Seigneur. Délivre-les de cet abattement et qu'ils se remettent à espérer en toi. Car tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de miséricorde. Merci pour ta parole Seigneur, que ton nom soit béni.